Eh bien, nous allons nous entretenir aujourd'hui autour des quatrièmes rencontres des patrimoines les 12-13 avril à Saint-Marcellin en compagnie de Jean Brisley. Bonjour Jean Brisley.
Bonjour. Vous êtes... et merci d'être accueilli sur Radio Royan.
C'est avec plaisir et puis aussi bien sûr d'aborder ces quatrièmes rencontres par l'association Patrimoine Isère Aval, sur laquelle nous allons revenir, puisqu'effectivement, un nouveau portage pour ces rencontres très fédératrices de nombreuses associations du territoire, Sud-Grésivaudan, mais également Royan-Vercors. Avant d'aborder justement le portrait de ce patrimoine Isère Aval, peut-être revenir sur ces rencontres, à savoir le but de l'événement et puis un certain passé, puisque ce ne sont pas les premières, hein, loin de là.
Alors, ce ne sont pas les premières, parce que le nom, c'est les quatrièmes rencontres. Donc, ce sont des rencontres qui sont tous les deux ans. Les premières ont eu lieu en 2017, ensuite 2019, ensuite 2023, parce que 2021 est passé à l'as à cause du Covid. Et les quatrièmes, ça sera 2025 cette année, dans une dizaine de jours. Le but de ces rencontres, c'est de fédérer au moins une fois tous les deux ans l'ensemble des associations qui s'occupent de patrimoine, au sens large du terme, le patrimoine matériel ou immatériel, c'est-à-dire aussi bien parler d'un monument, d'une église, d'un château, de choses comme ceci, ou parler du patois, de parler de mouvements sociaux qui ont pu exister, ou parler de grands personnages qui ont marqué telle ou telle partie de notre territoire. Donc la notion de patrimoine n'est pas définie au-delà que patrimoine matériel et immatériel. Tout ce que l'on peut imaginer qui soit utile et nécessaire de défendre ou de promouvoir.
Et porté par de nombreux bénévoles, hein, comme je disais, à travers
porté par une vingtaine d'associations au bas mot. En 2023, quand on a fait la dernière édition, il y avait quand même 26 ou 27 stands d'associations. Cette année, il y en aura un petit peu moins. On va tourner autour de 21 stands, plus des stands d'exposition particulières. Donc on sera quand même à 25-26 stands différents.
Donc une manifestation d'envergure hein, portée donc par cette nouvelle association Patrimoine Isère Aval, spécifiquement dédiée donc à cette partie fédératrice et organisatrice de l'événement. On peut expliquer un peu son rôle.
Oui, je vais essayer d'expliquer pourquoi cette association spécifique. En 2017 et 2019, c'est l'association de Pontant-Royan, si Pontant-Royan m'était compté, qui était à l'époque animé par Gilles Méus, qui avait d'ailleurs pris l'initiative de cette manifestation. Et c'est eux qui l'ont organisé, qui l'ont porté à bout de bras, qui ont négocié avec Saint-Marcellin pour avoir des locaux pour faire ceci. Et puis, à l'issue de la manifestation de 2019, il y a eu une réunion à caractère un petit peu organisationnel et politique, puisqu'il y a des élus qui nous avaient rejoints, certains élus importants de notre territoire, qui nous avaient rejoints quand on avait tiré le bilan de 2019 en soulevant un problème qui était assez important, c'est que faire une manifestation qui se veut fédératrice, rassemblant une vingtaine d'associations, c'est difficile de demander à une seule association d'emporter le projet au point de vue de l'organisation d'une part, mais surtout au point de vue financier, parce qu'elle est seule à courir après des subventions qu'elle obtient, mais ces subventions, elles sont destinées à quelque chose qui est commun à une vingtaine d'associations. Donc le principe avait été posé, il faut que l'on fasse une association spécifique à ce projet en 2019. Quand on a tiré le bilan de la deuxième expérience. Et puis, comme en 2021, il n'y a rien eu à cause du Covid, la question, elle est restée en jachère. Et quand en 2023, après le Covid, elle est revenue sur le tapis, il n'y avait toujours pas d'association fédératrice. L'association de Pontant-Royan s'est désistée en disant qu'elle n'avait plus la force de le faire. Gilles Méus était reparti en Belgique. Enfin, pour tout un ensemble de raisons, les amis de Pontant-Royan ne se sentaient pas la force de relancer le projet. Et c'est la nouvelle association patrimoniale de Saint-Marcellin, les groupes Remparts, qui a pris le projet à bras le corps, mais toujours sur la même formule, hein, c'est-à-dire en faisant des demandes de subvention au département et à la communauté de communes de Saint-Marcelin-Vercors-Isère, des demandes de subvention au bénéfice d'une manifestation fédératrice. Mais en disant bien, c'est la dernière fois. Donc après la manifestation de 2023, on a tiré le bilan et le principe d'une association spécifique a été posé et s'est réalisé en mai 2024. Cette association s'appelle Patrimoine Isère Aval. Elle regroupe à l'heure actuelle 21 associations qui ont pris leur adhésion, payé leur adhésion. Ce n'est pas une association qui regroupe des adhérents à titre individuel. Elle ne regroupe, c'est ce qu'on peut appeler une fédération. Elle ne regroupe que d'autres associations qui ont leurs représentants. Le représentant à tour de rôle, c'est qui veut bien venir, mais il intervient au nom de l'association et pas en son nom particulier. Donc Patrimoine Isère Aval existe depuis mai 2024, l'année dernière. Ça va faire un an dans un mois, un gros mois. Et l'objectif unique et essentiel de cette association, c'est de réaliser tous les deux ans les rencontres des patrimoines.
Et ça facilite aussi avec les institutions, les aides financières d'avoir
Ça facilite largement parce qu'on a obtenu une subvention de la part du département de l'Isère. À partir du moment où on se présente sous un aspect fédérateur, c'est quelque chose qui intéresse éminemment les élus. Parce que ils savent à qui ils s'adressent, ils savent que le financement qu'ils peuvent délibérer, voter, il est prévu pour une action bien fléchée, bien ciblée. C'est le raisonnement que tient aussi la communauté de communes Saint-Marcelin-Vercors-Isère, qui a priori devrait nous délivrer aussi une subvention dans les jours qui viennent. Il y a une espèce d'intérêt aux élus de pouvoir, lorsqu'une manifestation leur est proposée qui regroupe une vingtaine de structures différentes, d'avoir un interlocuteur unique qui permet de gérer des fonds et de savoir à quoi on se dispose de libérer une subvention.
Voilà, puis aussi les relations interassociatives.
Tout à fait.
Et donc, ça compose également une certaine mosaïque du territoire du sud Grésy-Boudan et du Royan-Vercors. Je ne sais pas si vous vous sentez, parce que 21 associations, ce n'est pas rien, de détailler un petit peu de celles qui participent donc à Patrimoine Isère Aval.
Alors, je peux détailler en essayant de citer aussi ce qu'elles font et où elles se trouvent. Alors, l'ordre que j'ai là, c'est un petit peu un ordre alphabétique, donc on va essayer de le respecter. Sans compter que l'ordre alphabétique, ça dépend de ce qu'on utilise comme premier mot.
C'est vrai, très relatif.
Alors, c'est tout à fait relatif. Mais à l'heure actuelle, les associations qui sont adhérentes sont les Amis du Vieux-Saint-André. Alors, il s'agit de Saint-André-en-Royans. À Saint-Apollinaire, on a une association Aplomb, qui est peut-être bien connue sur notre territoire, parce qu'elle est en charge
dans le domaine de l'éco-construction.
L'éco-construction, et puis aussi l'éco-construction actuelle, et puis ce qui est rénovation, réhabilitation du bâti ancien, traditionnel. Alors, ils font de la formation et ils font du travail effectif, donc c'est très intéressant. Amédéus à Châtes, qui est une association patrimoniale un petit peu classique, bon, qui a une version théâtre qui existe aussi, etc. À Montagne, l'association européenne Willy Münzenberg, qui se propose de favoriser la connaissance d'un personnage qui s'appelait Willy Münzenberg, qui est un Allemand communiste de culture générale, qui est le fondateur des jeunesses communistes en Allemagne, qui s'est vigoureusement opposé à Staline lorsqu'il a notamment signé les accords russo-germaniques après Munich, et ayant traité Staline d'être le premier des traîtres, et qui a été, donc qui s'est réfugié en France à cette époque-là, en 1939, et qui a été incorporé, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore en guerre. Malgré cela, le gouvernement français interpellait tous les Allemands qui se réfugiaient en France et les plaçait en camp. Donc le Willy Münzenberg en question a été placé dans un camp à Chambaran. Et lorsqu'il a été libéré de façon extrêmement rapide, lorsque la déclaration de guerre a eu lieu, et les réfugiés enfermés dans le camp de Chambara ont été évacués pour essayer de rejoindre l'Ardèche, si mes souvenirs sont exacts. Et au cours de ce déplacement, là, l'histoire balbutie, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'il a abandonné le déplacement à pied des internés de Chambaran pour leur déplacement pour aller en Ardèche et essayer de fuir l'avancée des Allemands. Il l'a abandonné pour essayer sans doute de s'évader, mais il a été retrouvé quelque temps après, son cadavre au sol, avec une corde autour du cou, l'autre moitié de la corde étant restée sur un arbre, donc il a été pendu. À l'époque, les analyses qui ont été faites aussi bien par la gendarmerie que par le médecin, un médecin connu entre autres, puisque c'était le docteur Carrier qui était à la tête de la résistance à Saint-Marcelin, ont plaidé pour un suicide, lequel suicide est depuis vigoureusement combattu, aussi bien par l'association Willy Münzenberg que par des intellectuels allemands qui ont travaillé sur ce fondateur du communisme allemand et qui pensent plutôt qu'il s'agit d'une vengeance des sbires staliniens qui ont exécuté Willy Münzenberg à Montagne. Donc c'est une histoire qui est assez intéressante, surtout maintenant que l'on parle du 80e anniversaire de la libération. Donc elle se place en amont de la dernière guerre et elle est assez intéressante à connaître. Ensuite, dans cette association Patrimoine Isère-Aval, on a le groupe Rempart dont j'ai parlé, le groupe de Saint-Marcelin, qui est une association récente. Elle a 3-4 ans d'existence maintenant, mais elle est basée sur un groupe qui existe depuis 1995, donc ça fait déjà, il a pas mal de bouteilles.
Dont vous faites partie?
Dont je fais partie, je suis le trésorier de groupe Rempart. Ensuite, on a une association de Saint-Quentin-sur-Isère qui s'appelle Sauvegarde du patrimoine et des informations d'autrefois, plus connue sous le nom de SPIA, qui a fait des travaux assez intéressants sur l'Isère, les déplacements de matériaux sur l'Isère, avec la navigation sur l'Isère. Son dernier travail concerne les fours à chaux qui sont que l'on voit sur la rive gauche avant d'arriver à l'Échaillon. Les fours à chaux qui sont au pied du Vercors, au bord de l'Isère. Ensuite, nous avons Saint-Véran hier et aujourd'hui, qui est une association patrimoniale sur Saint-Véran, qui peut là parler entre autres de Béret, un écrivain, enseignant, qui a beaucoup travaillé sur Victor Hugo et un peu sur notre région du Dauphiné. Groupe Patrimoine Vercors, qui est une association du Vercors, à ce juillet en Vercors. Si Pont-en-Royan m'était compté, j'en ai parlé tout à l'heure à Pont-en-Royan, qui est maintenant animé par Jean-Pierre Perrazio. Objet d'antan à Varacieux, c'est une association qui a une considérable collection de matériaux et de matériel ancien, tournant largement autour de l'agriculture et des métiers traditionnels. Mais quelque chose de faramineux, parce qu'ils ont 2 ou 3 bâtiments qui sont débordants de matériel. Des fois, ils savent pas trop où les mettre. Ils les sortent aux journées du patrimoine. C'est intéressant. Le Bureau international du banc à Saint-Marcelin. Une association intéressante parce qu'en guise de patrimoine, son patrimoine, c'est le banc public. Donc, qui n'est pas réservé qu'aux amoureux. Et qui fait beaucoup de travail. Alors, c'est une petite association. Il n'y a pas beaucoup de membres. Par contre, elle a réussi à créer un réseau européen. Et elle a un site où il y a des milliers de photographies de bancs publics. Donc si un jour vous voulez chercher ça, BIB, Bureau international du banc public. L'international, il est
oui, dans les
dans deux sens.
Double sens, oui, tout à fait, oui.
Alors pour ceux qui veulent comprendre.
Parce que c'était initialement que le bureau du banc public et ouais. Ça a été rajouté par la suite.
Voilà. Ensuite, nous avons l'Association française des Amis des Antonins. Une association qui est vieille association, puis qui s'occupe de plaider la cause des constructions et de la mémoire des communautés antonines en France et en Europe. Les Amis de l'Artaudière à Saint-Bonnet-de-Chavannes, qui tourne autour d'un château qui a été acquis par la municipalité et qui est progressivement rénové, un beau travail.
très belles expositions aussi.
Oui, et puis qui joue un rôle culturel qui n'est pas négligeable, avec des expositions artistiques, et puis des conférences, et puis des choses comme ça. Non, un beau travail. Les maisons paysannes de la Drôme. Donc il y a encore quelque chose qui est de la Drôme. Donc, les amis de la Galicière à Châtes, alors ça c'est un atelier de soierie qui va depuis l'élevage du cocon, enfin non parce que c'était plutôt les paysans à côté qui élevaient les cocons puis qui les apportaient, donc le filage des cocons et puis la préparation de la soie à grège qui va après servir pour faire des tissus. Le centre généalogique des Alpes, section de Saint-Marcelin, Sud-Grésivaudan, donc la section qui s'occupe essentiellement de généalogie, de recherche sur les familles, des choses comme ceci. Les vieilles maisons françaises, la section Isère, donc c'est une association nationale dont la section Isère a adhéré à Patrimoine Isère-Aval et qui s'occupe du patrimoine tournant autour des maisons, alors je ne sais pas comment on peut dire, il ne faut surtout pas être péjoratif, mais des maisons un petit peu bourgeoises de notre région.
Des maisons de caractère.
Des maisons de caractère, voilà, je cherchais un petit mot qui convienne bien. Ensuite, quand le patois revit au Palais de la Franquetta, donc c'est une association qui se charge de... Alors la Franquetta, c'est une noix, c'est une des trois noix qui sont reconnues pour l'appellation d'origine protégée sur la noix de Grenoble, la Franquette, les autres étant la Parisienne et la Mayette. Et donc cette association travaille essentiellement sur le patois, le langage, enfin tout ce qui peut concerner la façon de parler de notre région, un thème que l'on retrouvera dans notre salon. Traces d'antan à Rovon, une association chargée du patrimoine de la petite commune de Rovon, qui se trouve, pour ceux qui ne la connaissent pas, sur la rive gauche de l'Isère, à peu près à la hauteur du fameux éboulement qui a eu lieu vers Saint-Gervais. Là, hein, donc vous voyez où c'est, juste à côté. Et une autre association de Rovon qui s'appelle les Amis de l'église Saint-Pierre, qui est une association spécifique sur l'église Saint-Pierre de Rovon pour essayer de la faire connaître et de la sauvegarder. Voilà la liste de nos associations.
Eh bien, belle vitrine, hein, des associations patrimoniales du Sud Grésivaudan et puis également aussi du Royan Vercors.
Alors, on avait un petit peu plus d'associations du Vercors il y a 2 ans, là, en septembre 2023. On avait entre autres Vespa Vassieux, qui sera quand même présent cette année parce qu'ils avaient d'abord dit qu'ils ne seraient pas présents. Ils ne sont pas présents dans notre association, ils n'ont pas adhéré. Mais ils seront présents à notre salon des patrimoines, on rencontre des patrimoines en association avec Patrimoine Vercors.
Voilà, le groupe patrimoine du Vercors de Saint-Julien.
Oui.
Alors le programme de ces quatrièmes rencontres, on le rappelle, donc samedi 12 avril à dimanche 13 avril, largement en journée, avec un forum donc qui sera, c'est d'ailleurs le forum de Saint-Marcellin dont il est question, et qui offrira la place à de nombreux stands pour ces associations, librairies. Alors que va-t-il se passer ?
Alors déjà, il y aura dans le forum de Saint-Marcellin, il y aura un stand pour chacune des associations que j'ai citées, plus une ou deux autres. Chacune étant libre de mettre ce qu'elle veut sur son stand. Donc elle parlera de son histoire, de ses objectifs, de ses intérêts, de ce qu'elle réalise à l'heure actuelle, mettra éventuellement à disposition des publications. Chacun est libre de faire ce qu'il veut sur son stand. Au-delà de cette exposition, on a retenu cette année un thème un peu fédérateur pour englober la manifestation de façon à attirer le public, parce que c'est une information, une conclusion que l'on avait retirée quand on a fait le bilan de la précédente édition, que le public était là. Il y a eu 600 personnes à peu près qui ont visité en 2023. Mais on pense qu'il peut y avoir plus, et surtout il pourrait y avoir plus jeunes, plus intéressés à la vie de nos patrimoines. Et pour ce faire, on a choisi un thème qui est celui de la gastronomie. Au-delà du thème de la gastronomie, ça nous a permis d'inviter 3 confréries. Celle du Saint-Marcellin, celle de la Noix et celle de la Raviole.
Oui.
Donc il y a 3 confréries qui ne seront pas là en grande tenue, enfin, sauf les animateurs qui seront là. Mais il n'y aura pas la totalité des membres de chacune des confréries, loin de là. Ils tiendront un stand où ils feront des présentations de leur matériel, des animations autour de la fabrication de leurs produits. Alors évidemment, on ne va pas fabriquer du Saint-Marcellin. Par contre, on pourra toujours faire de la dégustation de Saint-Marcellin. Et puis le matériel de fabrication du Saint-Marcellin sera présenté. Les faisselles, tout ce qui permet de retourner les fromages, etc., ça sera présenté par l'association. En ce qui concerne la noix, les dégustations de noix, et puis une représentation de ce qu'est une mondée. C'est casser les noix, séparer les cerneaux, etc. Donc ça sera aussi offert au public. Et quant à la raviole, ben, il y aura des ravioleuses qui feront de la cuisson de raviole et qu'elles proposeront à dégustation du public. À côté de cela, nous aurons une exposition d'une association de Viriville qui s'appelle « Les mots du gène ». Le gène, c'est le diminutif de Eugène. Alors l'Eugène en question, c'est un personnage qui est décédé maintenant, mais qui a passé sa vie à graver sur des planches de bois des maximes, des sentences, des proverbes, des fois un petit peu au langage près, très cru, et qui portent un petit peu sur tous les sujets et qui sont en patois. Il ne les a pas écrits en français, il les a gravés en patois. Donc on a demandé à l'association Les Mots du Gène de nous faire une sélection des planches faites par ce tenant du patois local. Une sélection des planches qui tournent autour du bien manger, du bien boire, du bien digérer, etc., etc. Donc nous aurons tout un ensemble de planches qui parlent aussi bien de boire de bons canons que de manger, de partager le pain, etc. Et le pain nous amène à un troisième travail, qui est celui sur lequel on place beaucoup d'espoir pour attirer des gens et faire perdurer cette idée de sauvegarde des patrimoines locaux, qui s'appelle du pain sur la planche, qui sera présenté sous la forme d'une exposition. On aura une trentaine de photographies en format A4, grand format, qui seront présentées parce qu'il y a tout un travail qui a été fait au niveau de notre territoire concernant les anciens fours à pain. Quand je dis territoire, c'est Sud-Grésivaudan et les marges du Vercors où l'on est là aujourd'hui. Donc il y aura une trentaine de photographies qui seront présentées en grand format et une bonne quarantaine d'autres photographies qui seront présentées par contre en planche avec des petits formats parce que d'abord on ne pouvait pas s'amuser à faire une exposition d'une centaine de photographies. Ensuite, parce que la qualité photographique de celles qui seront présentées en mosaïque est un petit peu inférieure aux autres. Donc on a choisi de faire cette formule-là. Donc il y aura tout un ensemble de photographies de travail de four à pain qui sera présenté au public. Ça sera assez beau, assez passionnant.
Four banal ou particulier?
Alors, tous les fours banals, tous les fours particuliers qui existent dans la région, que ce soit des fours qui datent d'avant la Révolution, lorsqu'il y avait l'impôt local sur la fabrication du pain, ou que ce soit des fours qui ont perduré. Il y a certains fours qui sont encore utilisés à l'heure actuelle par des particuliers. Il y en a d'autres qui tombent un peu en décrépitude ou qui sont utilisés pour faire des salons d'été. Mais bon, les fours existent et ça mérite de les connaître. À côté de cela, il y aura une exposition qui est faite par une association iséroise qui s'appelle Avipar, qui travaille avec des personnes en réinsertion et qui a réalisé une collection de séchoirs à noix essentiellement et de quelques fours à pain qui sera aussi exposé à côté de nos photographies de fours en pain. Alors si vous voulez, je peux après expliquer quelle est la suite qui sera donnée à ça. Et puis nous aurons 12 conférences aussi qui seront dans la salle voisine dite salle polyvalente qui seront le samedi et le dimanche offertes au public.
Des conférences posters, c'est ça?
Alors on appelle ça des conférences posters parce que ce sont des conférences qui durent 20 minutes. Donc c'est un terme un petit peu traditionnel dans le métier de la conférence. L'orateur, il a 20 minutes, il vient avec sa clé USB s'il a des images à présenter, il s'installe, il parle pendant 20 minutes. Après, on lui accorde 3-4 minutes pour répondre à une ou deux questions du public. Et il laisse la place, il enlève sa clé USB et c'est le suivant qui prend la relève. Alors, je vais laisser la parole à notre animateur parce que...
Donc, effectivement, ce programme semble bien riche. Hein, il y a vraiment des temps forts qui ont été comme ça édités sur une plaquette au fil des heures. Vous proposez un certain nombre de temps forts comme ça. Mais on peut parler de quelques conférences.
Oui, on peut parler de quelques conférences.
Par exemple, samedi 12 avril, bon, après le vernissage, on parlera déjà bien de ce qui concerne le désenclavement du Vercors au 19e siècle, l'histoire d'un mythe. C'est ce qui est proposé par le Vercors Patrimoine, notamment, avec Pierre-Louis Filet.
Oui.
Qui interviendra autour de cette thématique. L'histoire de Saint-Marcellin, comme vous le faisiez savoir à 15h30 par la confrérie, pas forcément costumée, mais en tout cas, ils seront là pour...
Non, mais ils feront autour de leur stand, c'est la seule conférence qui ne sera pas dans la salle polyvalente, puisqu'ils veulent faire une conférence avec leur matériel exposé pour faire l'histoire du Saint-Marcellin. Et raconter les évolutions successives de ce petit fromage, parce qu'au début c'était un fromage de chèvre, et puis après c'est devenu un fromage de lait mélangé, et puis à l'heure actuelle ce n'est qu'un fromage de vache. Donc ils raconteront tout ça, et puis les démarches pour obtenir, non pas l'AOP, parce que les marches n'ont jamais abouti pour l'AOP, si je me trompe pas, essentiellement parce que lorsque le dossier d'AOP a été proposé, les conditions d'élevage des vaches et de sélection du lait n'étaient plus accessibles, notamment parce qu'elles passaient plus assez de temps à l'herbe. Et donc ça permettait pas de passer en AOP, mais c'est passé quand même en IGP. Donc le fromage de Saint-Marcellin est un fromage reconnu au point de vue zone de production.
Et puis également ce petit bijou architectural dont il est actuellement question pour rénover le toit, et un lancement de cagnotte a été effectué il y a peu. Donc cette maison d'artistes sera aussi un focus ce samedi 12 avril. Oui, le bateau ivre, les projets du bateau ivre à 16h avec Benjamin Armand, bien concerné par les questions, il est conseiller municipal. Et puis la journée se terminera sur... des aspects bien de la thématique entretenue dans la gastronomie, hein, des lectures d'extraits de textes littéraires à 16h30. Et puis à 17h, on empruntera ce petit train, comme on le nommait le petit chouchou entre Bourg-de-Péage et Sainte-Eulalie-en-Royans par Sipon Mété-Comté.
Et même jusqu'à Pont-en-Royans tout en restant dans la Drôme. Parce qu'entre Sainte-Eulalie et Pont-en-Royans, il descendait au niveau de la Bourne, mais il restait dans la Drôme.
Il restait dans la Drôme, oui, à la limite, mais effectivement, c'était exclusivement drômois son parcours. Ouais. Et puis cela reprendra de plus belle le dimanche 13 avril, avec des temps de poésie, par le groupe Rampa d'ailleurs.
Ouais.
Et puis d'autres aspects de restauration du patrimoine, le confort thermique dans le bâti ancien également, ouais, l'après-midi. L'histoire de la noix de Grenoble.
Oui, qui sera présentée par un membre de la confrérie de la noix. C'est pareil, là, ils raconteront l'histoire de la noix, les variétés qui ont été sélectionnées, l'obtention, cette fois-ci, de l'AOP, l'appellation d'origine protégée, qui va depuis la haute vallée du Grésivaudan et jusqu'aux limites de la Drôme, donc qui suit un petit peu la vallée de l'Isère, un grand territoire.
Autre temps fort à 15h30 le dimanche, l'affaire que vous nous avez relatée il y a quelques instants, Willy Münzenberg à Montagne. Ouais. Et puis cela se terminera par l'archivage des associations patrimoniales. Ça, c'est une question intéressante pour toujours classer et opérer au mieux après de refaire surgir des aspects de l'histoire, des territoires.
C'est fait par l'association des Amis du Vieux-Saint-André. Qui ont une certaine compétence en la matière, qu'ils font partager à ceux à qui le leur demandent, qui ont une certaine compétence en la matière, en ayant fait un site internet depuis longtemps, en ayant mis en place des procédures d'archivage de leurs documents, répertoriés, classés, etc. Donc ce qui est assez intéressant. Et qui sont tout à fait volontaires pour essayer de partager leurs connaissances et leurs informations auprès des autres associations qui, des fois, ont du mal à bien archiver leurs documents ou à se mettre en route pour bien archiver leurs documents. Et je dis ça en connaissance de cause parce que notre association de Saint-Marcelin, groupe Rempart, a un petit peu ce problème-là. On est souvent débordé, noyé
aussi
dans des documents, des éléments que des amis nous amènent, nous communiquent. Alors, il y a des documents qui sont intéressants. Quand on a un objectif, le patrimoine de Saint-Marcelin, puisque c'est l'objectif de groupe Rempart, et puis qu'on nous amène des documents qui n'ont rien à voir avec Saint-Marcelin, est-ce qu'on les accepte? Est-ce qu'on les prend? Est-ce qu'on les garde? Qu'est-ce qu'on en fait? Refuser à des amis qui nous apportent des archives qu'ils ont chez eux, c'est des fois pas très gentil. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert? Est-ce qu'on a d'autres filières à qui on peut les communiquer? Et comment on les trie? Bon, c'est toutes des questions qui sont importantes et qui touchent beaucoup d'associations, je crois. Voilà. Qu'est-ce que l'on fait de nos archives? Comment on les archive? Comment on les permet aux adhérents d'y accéder? Comment est-ce qu'on permet aux adhérents de savoir ce que l'on possède comme archive, s'ils peuvent chercher quelque chose dedans ou si c'est pas la peine qu'ils cherchent parce que ça n'y est pas. Tout un ensemble d'informations qui sont importantes pour nos adhérents quand ils recherchent quelque chose ou qu'ils ont envie de connaître quelque chose.
Et puis les techniques communes entre les associations.
Et les techniques communes pour répertorier entre les associations, oui.
Alors, il y a également un objectif aussi de ce forum, c'est le lancement de programme pédagogique en toile de fond, parce que effectivement c'est un mode, l'engagement associatif qui semble ne plus être véritablement dans la dynamique des jeunes générations, notamment aussi pour le patrimoine, ce qui peut donner une impulsion à opérer un certain renouvellement dans les différentes associations. De quoi s'agit-il quand on évoque ce programme
pédagogique ? C'est un petit peu la suite de l'exposition sur les fours à pain dont je parlais il y a 5 minutes. L'objectif, et il est déjà bien engagé, il est bien sur les rails. L'objectif, il consiste à faire partager auprès des scolaires primaires de l'ensemble de notre territoire. Alors, on est parti sur le territoire SMVIC, mais je pense qu'il sera peut-être pas interdit, mais là, ça dépendra des bonnes relations qui peuvent exister entre les administrations de l'Isère et de la Drôme. Il est peut-être pas interdit de penser à la Drôme. Donc de faire connaître aux primaires, de toutes les classes primaires, l'histoire du pain. Alors le nom générique que l'on a choisi, c'est « Du pain sur la planche », parce que ça permettra déjà d'expliquer d'où vient cette formule, et puis ça permettra d'accéder au double sens de cette formule. Du pain sur la planche, c'est parce que le pain, on le mettait sur une planche à pain qu'on enfournait et qui permettait de le faire cuire et puis de le ressortir, etc. Une technique que certains d'entre vous connaissent encore quand il s'agit de faire cuire les pizzas. Vous allez chez un pizzaiolo de bonne facture et s'il ouvre son four au public, qu'on le voit, vous voyez comment on enfourne une pizza et comment on la ressort. Bon, le pain, c'était pareil, sauf que ça durait un petit peu plus longtemps la cuisson que celle d'une pizza. Mais il fallait bien un outil pour rentrer les miches et pour les ressortir quand elles étaient cuites. Donc c'est ce qu'on appelle la planche au bout d'un long manche, etc. D'où l'expression du pain sur la planche. Mais comme le pain est devenu au cours, et ça c'est quelque chose qui sera expliqué aux scolaires, comme le pain est devenu au cours des années, des générations, le symbole, un des symboles de la vie, d'une vie correcte et satisfaisante, cela nous permettra d'aborder des questions comme la place du pain dans la vie sociale, la place du manque de pain dans la vie sociale, lorsqu'il y a des famines. En France ou ailleurs, on a eu des famines en Égypte qui ont entraîné des manifestations de violence, etc. Lorsque les gens ont faim qu'il y a la famine, ce qu'ils réclament, c'est du pain. C'est le symbole, même si des fois, c'est pas le pain, mais c'est des pommes de terre ou des fèves ou des fayous, des choses comme ça. Mais le pain est vraiment devenu un symbole universel de la nourriture et de la faim. Donc, expliquer cela et l'expression du pain sur la planche, c'est devenu aussi une autre acception de ce terme. Quand on dit qu'on a du pain sur la planche, c'est qu'il nous reste du travail à faire. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette espèce d'assimilation entre le pain nourriture sur la planche à pain et le pain source de vie pour pouvoir payer son manger à la fin du mois? qui est traduit par avoir du pain sur la planche, c'est avoir un petit peu du travail qui nous permet d'avoir un revenu financier à la fin du mois et qui permet d'acheter le pain à manger. Mmh. Donc tout ceci expliqué à des scolaires. Alors, le projet est bien parti. Il sera présenté et animé au cours de ces quatrièmes rencontres des patrimoines. Il y a une petite équipe qui s'est engagée dessus, qui est très efficace. Et il y a surtout le soutien déjà de personnalités intéressantes, dont l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription de Saint-Marcellin, qui est tout à fait favorable et tout à fait partant pour ce projet. Et donc, dès les rencontres du patrimoine, le projet sera officiellement lancé. Les enseignants des écoles sont déjà un petit peu informés, mais ils seront informés de façon très officielle d'ici à septembre, de façon d'ici à juin, parce qu'après juillet-août, c'est les grandes vacances, d'ici à juin, de façon qu'en septembre, le projet prennent réellement pied et qu'une tournée soit organisée dans les écoles de notre territoire pour présenter les photos, peut-être une petite maquette de four à pain si on arrive à en trouver une, en faire une, en tout cas du matériel qui sert à la boulangerie avec des boulangers, enfin tout ce qui convient pour faire des interventions en milieu scolaire qui soient à la fois pédagogiques, à la fois intéressantes, à la fois passionnantes si on peut le faire.
Voilà, et avec tout ce maillage des fours sur le territoire dont vous avez fait un certain nombre de clichés à ce propos. Merci beaucoup Jean Brisley pour ce panorama de ces quatrièmes rencontres des patrimoines à Saint-Marcellin les 12 et 13 avril 2025. Eh bien, on vous retrouvera donc à travers les stands. Et puis,
Radio Royan est bienvenue au cours de ces deux journées. S'il veut faire du son, aller rencontrer des associations, discuter, faire le tour des expositions, rencontrer les animateurs de ce projet pédagogique du pain sur la planche, c'est tout à fait bienvenu.
On aura du pain sur la planche à cet effet aussi.
Voilà, donc juste une toute petite chose pour rappeler les horaires. Donc le forum de Saint-Marcellin, il est assez facile à trouver, il est vers le Champ de Mars. Sur le côté, donc tout le monde peut le voir. Il y aura une banderole sur l'avenue Docteur Carrier et une banderole à l'entrée du forum qui permettront de le situer. Les horaires, ce sera le samedi 12 à partir de 10h jusqu'à 18h et le dimanche 13 avril à partir de 10h jusqu'à 17h. On s'arrêtera une heure plus tôt de façon à permettre à chaque association de démonter son stand et de ne pas perdre trop du dimanche quand même s'ils veulent passer le dimanche soir en famille ou entre amis. L'inauguration vernissage de ce salon, ce sera le samedi à partir de 11h. Avec tous les maires de notre territoire sont invités, tous les présidents d'associations sont invités, tous les élus du territoire sont invités. Bon, j'espère qu'il y aura du monde. Là, il y a 2 ans, il y avait eu du monde. Ça commence par un petit tour de découverte des exposants et puis on termine par un petit buffet, un apéritif et entre les deux, des discours.
Programme bien complet. Merci beaucoup, Jean Brisley. Je rappelle que vous
êtes... C'est moi qui vous remercie, qui remercie Radio Royan pour cette sympathique contribution à notre succès. Merci.
C'est naturel et donc vous représentez Patrimoine Isère Aval. Hein. On rappelle l'association porteuse et fédératrice du patrimoine en Sud-Grésivaudan et un peu Royan-Vercors aussi et qui couvre donc ce programme des quatrièmes rencontres. À bientôt, merci.
Merci beaucoup.